sous les couvercles, la good food.
Carlo,
oui, Sophie.
On ne parle pas la bouche pleine.
Oh, ça m'arrive.
Personne n'en disconviendra. C'est qu'à table, il faut se tenir et ce n'est pas notre invité qui nous contredira ce matin avec nous, Alain Crugère. Bonjour Alain.
Bonjour Sophie.
Bienvenue. Bonjour. Bienvenue au royaume des Belges, au royaume des gourmands, au royaume de Gaston Lagaffe et de Brel. Heureux ?
Ah bah oui, très content là. Je suis en très bonne compagnie.
Alain, on vous reçoit évidemment à l'occasion de la sortie de votre livre « On ne parle pas la bouche pleine », une petite encyclopédie culturelle de la gourmandise publiée chez Albin Michel, nourrie par près de 500 émissions, puisque vous avez été très longtemps titulaire de l'émission éponyme sur France Culture. Autant de découvertes, autant de rencontres pour dire finalement que la cuisine, c'est de la culture avec un grand C.
Alors, je ne sais pas si c'était un grand C, mais
ah,
en tout cas, je dirais avec un grand G, moi, comme gourmandise. Mm-hmm. Je trouve qu'on a tendance à dire que la gourmandise est un défaut, mais c'est faux. La gourmandise est une immense qualité. Le défaut, c'est la goinfrerie, c'est tout.
Alors, dans cet ouvrage, Alain Crugère, vous avez compilé une série d'entretiens radiophoniques avec des invités tous plus passionnants les uns que les autres. Et tout cela est ponctué d'anecdotes absolument passionnantes. Moi, je me suis vraiment régalée en lisant votre livre dimanche après-midi avec un bagnouls, pour tout vous dire.
Oui, j'ai vu des preuves vivantes.
Je me suis mise en
vivantes.
Condition.
Oui, oui,
et par exemple, oui. On découvre, Alain Crugère, que l'Odyssée, attribuée à Homère, fut la première comédie gastronomique de l'humanité. Racontez-nous.
Alors, ça se passe comme ça. En fin de compte, je suis invité chez des amis et il y a Daniel Mendelsohn qui est là. Et on parle de on ne parle pas la bouche pleine, de gourmandise, de sujets que traités, pas traités. Et il me dit, mais est-ce que tu sais quelle est la plus grande comédie de l'humanité? Enfin, je l'imite très très mal. parce qu'il parle un français remarquable.
Ouais.
Et je dis, non, je ne sais pas. Et il me dit, la première grande tragédie de l'humanité, c'est l'Iliade. Mmh. Et on ne mange pas dans l'Iliade. Et la première comédie de l'humanité, c'est l'Odyssée.
Où on mange.
Et c'est vrai que quand on lit, alors du coup je me suis précipité vers mon livre, et là on se rend compte qu'il n'y a que des banquets, que des festins, et c'est absolument un gigantesque festin divin, festin humain, festin cannibale, enfin tout est...
Voilà, et on rappelle juste pour la petite info que Daniel Mendelsohn, avec son bel accent, est évidemment un éminent critique littéraire américain et écrivain. Alors on va survoler ce magnifique ouvrage Alain Crugère, La Fontaine. Alors on se dit, mais qu'est-ce que La Fontaine vient faire dans cette histoire? Que vient-il faire dans cette galère? Quand on pense à Jean de La Fontaine, on pense souvent aux animaux qui parlent, à des morales apprises à l'école, à une littérature finalement faussement innocente. Mais ces fables, Alain, offrent en fait une double lecture tout à fait passionnante et qui nous concerne, nous gourmands. Racontez-nous.
Alors, ce qui se passe, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qui mangeait qui ou qui mangeait quoi dans l'œuvre de La Fontaine. Et je me suis adressé au plus savant des spécialistes de La Fontaine, qui est Patrick Dandré, qui est
professeur émérite à la Sorbonne,
et qui est le président des Amis de La Fontaine. Et il m'a dit, mais c'est très simple, c'est la chaîne alimentaire. Les fables de La Fontaine, c'est la chaîne alimentaire.
Oui.
Tout le monde mange tout le monde se fait manger. Nous les premiers d'ailleurs. Et on se fait avoir. Et quelles sont les deux premières fables de La Fontaine? C'est La cigale et la fourmi, et Le corbeau et le renard.
Ouais, j'allais dire,
et dans ces deux fables, on ne parle que de nourriture.
Oui, oui. Il dit quoi, Jean de La Fontaine? Il parle d'une prédation universelle, de cette voracité permanente, d'une chaîne de carnage, à vous entendre pour certaines de ces fables.
C'est exactement ça. C'est une chaîne du carnage, une chaîne du aussi une chaîne de la gourmandise, parce que le rat des villes et le rat des champs, c'est délicieux, de voir comment ils viennent déguster nos restes. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est une fable comme Le loup et le chasseur, où il y a une morale merveilleuse.
Oui.
C'est la convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. Et je trouve que c'est si on peut donner un conseil aux humains, c'est d'éviter la convoitise et l'avarice, et tout irait beaucoup mieux, je pense.
Et puis, il y a d'autres fables, évidemment. Le cygne et le cuisinier. Donc, on rappelle que c'est l'histoire d'un cuisinier qui va confondre un cygne avec un oison, donc une genoise, et qui s'apprête à le mettre au potage. Et puis, arrive le moment où le cygne chante. Et là, le cuisinier va renoncer. Et là, ce que fait finalement Jean de La Fontaine, c'est qu'il pose une question assez vertigineuse. Tout ce qui est mangeable n'est pas forcément mangé.
Oui. Et puis il dit autre chose aussi, et il en parle parce que c'est très important, c'est qu'il y a aussi la faim. Et la faim, c'est un des grands problèmes de l'humanité à cette époque-là. Les gens ont faim, ils ont besoin de se nourrir. Et je pense pour ça à la fable du petit poisson et le pêcheur.
Ouais.
Et c'est vrai que le petit poisson qui dit au pêcheur, mais attends un peu, attends que je grossisse, tu auras plus à manger. Et le chasseur qui le mange parce que... Il se dit, on verra demain, c'est un peu trop risqué.
Et finalement, la morale de toute cette histoire, de toute l'œuvre de Jean de La Fontaine autour de cette table, c'est qu'il parle de nous, finalement, de nos travers, de nos exigences, de nos tabous alimentaires aussi, parfois, dans certaines fables.
Oui, et ce qui est très, très frappant, moi, je trouve, c'est qu'on se rend compte à quel point ces fables, d'abord, sont dans une langue absolument... merveilleuse, ciselée avec tellement d'intelligence. Ces fables sont l'adaptation de fables antiques d'Ésope, pour la plupart, et elles sont d'un contemporain absolument, d'une modernité absolument démente aujourd'hui.
Exactement.
Et ça, c'est absolument merveilleux.
Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être toi, Don Quixote sans peur, et le vent de l'histoire.
Seigneur, maître.
D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
L'une des plus belles incarnations musicales de Don Quichotte, Carlo Jacques Brel, c'était en 1968, Don Quichotte de l'Espagnol Miguel Cervantes. Alors, évidemment, parler de Don Quichotte, Alain Kruger, c'est évidemment parler de nourriture. La nourriture, la faim, la soif sont totalement omniprésents dans l'œuvre.
Ah oui, alors c'est frappant. Et dans l'œuvre, et dans le siècle.
Bien sûr.
Parce que ce qu'était ce siècle d'or... Alors là aussi, c'était absolument merveilleux parce que j'ai rencontré Florence Delay chez des amis.
Florence Delay est une amoureuse de Cervantes, totalement
Florence
passionnée.
Florence Delay, c'était une académicienne française. Elle est hélas décédée l'an dernier, mais comme elle est immortelle.
Bien sûr.
C'était la Jeanne d'Arc de Robert Bresson aussi. Mmh. C'était une femme merveilleuse et elle m'a dit, mais j'adore votre émission. J'ai dit, on va faire une émission.
Parlons de Don Quichotte.
Voilà, parlons de Don Quichotte. Elle m'a dit, mais... Don Quichotte, je l'aime. Cervantes, je l'aime. Ouais. C'est un bel homme. Et c'est extraordinaire de voir comment elle m'a fait voyager dans l'œuvre de Cervantes. Là, c'est pareil. Donc, j'ai choisi de parler de la panse de Sancho et des jeûnes de Don Quichotte. Parce que si on a écouté Jacques Brel, dans la version de cette époque-là, c'était Robert Manuel qui chantait « Et moi, je suis Sancho, Sancho, Sancho », et qui était son fidèle serviteur.
Mais en fait, ce qu'il faut dire à Alain Kruger, c'est que l'œuvre démarre autour d'un pot-au-feu. Et ça, c'est bien raccord avec les mijotés dont Carlo vient de nous parler.
Mais oui, c'est pour ça que c'était très important d'entendre ces mijotés tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que la faim et la soif sont absolument partout. Et ils sont bien sûr dans les affaires de Sancho, qui ne pense qu'à bouffer, alors que c'est pas du tout aristocratique de manger et de parler de nourriture. C'est pas du tout intellectuel de parler de cuisine. On l'a assez reproché à Diderot, on en reparlera peut-être. C'est vrai que donc c'est réservé à la valetaille, c'est réservé aux gens de peu. Qui sont des gens de goût. Mais eux, ils ont le droit de parler la bouche pleine, ils ont le droit de parler tout court de nourriture. Parce que c'est vrai que on adore ça en Belgique, en France, en Italie. On adore parler de ce qu'on mange, de ce qu'on va manger demain. Je veux dire, c'est un sujet de conversation absolument passionnant. Et pourtant, dans la morale bourgeoise du 19e, ouais. C'était, et même avant, bien sûr, depuis la Renaissance, c'était très vulgaire.
Mais dans l'œuvre de Don Quichotte, cette nourriture, elle est omniprésente. Et alors, c'est intéressant parce que les deux personnages sont finalement aux antipodes. Il y a effectivement Sancho qui est vraiment le glouton, hein, il mange, il y a un vrai plaisir à manger. Et puis Don Quichotte qui lui refuse, il jeûne par amour. Il y a deux versions finalement de notre rapport à l'alimentation à travers ces deux personnages.
Oui, il y a deux corps aussi.
C'est ça.
Il y a un corps rond, gourmand, avide de nourriture, qui se laisse même avoir par des mirages de nourriture, tellement il rêve de manger. Et de l'autre côté, il y a un homme qui vit d'amour et d'eau fraîche, qui rêve d'amour et qui ne pense même pas à l'eau fraîche. Hein.
Vous parliez il y a un instant à la Cruget de Diderot, écrivain, philosophe, encyclopédiste, évidemment incontournable. Donc il faut quand même expliquer que lorsqu'il était à la tête d'une encyclopédie, hein, donc dont le but était de diffuser le savoir, valoriser les arts et les métiers, encourager l'esprit critique, eh bien, la cuisine était alors considérée comme un sujet très embarrassant, alors que Diderot était plutôt un gourmand.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Diderot, on veut bien le croire qu'il est gourmand.
Ouais.
Mais Rousseau aussi. Mmh. Mais en même temps, c'est ce que je viens de dire, c'est que c'était pas chic de parler de nourriture.
Pourquoi ?
Qu'il y ait un chapitre. Parce que c'était réservé... la nourriture de l'esprit ne se mariait pas avec les nourritures terrestres.
Ça convoquait quoi ? Le corps, le désir du corps ?
Oui,
c'est ça.
Les humeurs un peu vulgaires, alors qu'il fallait élever son âme. C'était assez vulgaire. Et alors là, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré Jean-Claude Bonnet avec qui j'ai fait plusieurs émissions. Et là, on s'est vraiment amusé à retrouver la gourmandise de Diderot, à retrouver ces petits soupers qui devaient être absolument délicieux parce que c'était pas des gens riches, les gens de l'encyclopédie.
Non, non.
Mais en revanche, ils avaient des amis qui leur faisaient des repas absolument merveilleux. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Diderot, lui, il aime opposer la faim et l'appétit.
Mm-hmm. Ah,
il
oui.
dit la faim, c'est l'estomac.
Ouais.
Et l'appétit,
c'est l'envie.
C'est plus intellectuel.
C'est ça.
Ça suppose le goût. Ça
élève.
Il dit à un moment donné, ça élève.
Ouais.
Et il dit à son ami Sophie Volant, il dit... J'ai mangé comme un louveteau. J'avais tellement faim, après avoir travaillé dans l'encyclopédie, que j'ai dévoré.
Mais l'appétit...
Oui, l'appétit vient en mangeant. Oui,
oui. Oui. Mais... Alors, ça, c'est sûr, mais c'est quand même très intéressant. Nous, on va faire un nous un peu flou, mais nous sommes des privilégiés qui ne souffrons pas la faim. À nous, justement, de ménager notre appétit pour ne pas manger sans faim, si je puis dire.
Ah oui, mais c'est vrai que si on a la chance de pouvoir choisir ces aliments... Et je crois que c'est très important. Si on peut éviter de manger n'importe quoi, n'importe comment, c'est un niveau de civilisation qui s'élève.
C'est ça.
Et nous, on a beaucoup de chance, c'est vrai.
Mais c'est vrai que si on survole l'histoire des philosophes, le goût a toujours été considéré comme un sens secondaire, hein, à mettre en arrière-plan. La cuisine est un non-savoir. Et en même temps, je me mets à la place de Diderot, qui est quand même un penseur de la circulation des idées, des paroles. Le repas s'inscrit quand même dans une logique où on se rencontre autour d'une table et où les idées peuvent circuler. Toutes les idées, d'ailleurs.
Oui, mais je crois que les repas qu'il a pu faire chez le baron d'Holbach, qui était vraiment un ami proche, et je crois un hôte absolument remarquable qui avait une table assez savoureuse, où les idées fusaient, effectivement. Il y avait Grimm aussi qui était à table avec eux, enfin... Il y a vraiment une idée de la gourmandise, une idée de la table et une idée du ventre avec Louis-Sébastien Mercier, qui est l'auteur du Tableau de Paris et qui est un auteur moins célèbre et célébré que Diderot, a écrit des choses absolument passionnantes sur le ventre de Paris. C'est lui qui invente cette notion
de ventre reprise par Zola. Oui,
absolument.
Parlons Proust, Alain Kruger. La Madeleine de Proust.
Proust.
On la connaît tous, la Madeleine de Proust. Elle ne fut pas Madeleine au départ, elle était pain grillé, c'est ça ?
Oui, pain grillé ou biscotte.
Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette Madeleine de Proust ? Dans quel contexte Proust a-t-il posé ce concept qui est devenu aujourd'hui universel, la Madeleine de Proust ?
Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est que j'avais une contrainte Ouais. On m'avait dit, ce week-end, on va pas, il faut pas, c'est un week-end Proust. Il faut parler de Proust. C'était l'anniversaire. Bon, alors j'ai cherché. Je veux dire, il y a des sommités. Il y a Antoine Compagnon qui est une sommité, mais je me disais, il va être très sollicité. Mmh. Et j'ai cherché un étranger à la langue française dans les amis internationaux de Proust. Et il y avait un japonais qui s'appelle Yuji Murakami, qui est de Hiroshima, qui est professeur aujourd'hui à l'université de Kyoto, mais qui était, par un plus grand des hasards et des bonheurs, il était à l'époque assistant au Collège de France. Et j'ai rencontré cet homme qui était, mais alors, un puits de science. Il avait fait, lui, sa thèse sur Proust et l'affaire Dreyfus. Et la nourriture, c'est vrai, est très présente. Alors lui, là, nous, ce qu'on avait cherché, c'était aller enquêter sur la chair de Proust. Alors il dit la chair de Proust, un art violent, mais surtout terriblement sexualisé. De l'huître à l'asperge, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin.
Oui, on voit les similitudes, en effet. Mais vous parlez de violence. Or, on associe plutôt la Madeleine de Proust à quelque chose de doux, une nostalgie douce.
Alors la Madeleine, c'est autre chose. La Madeleine, d'abord, donc effectivement, comme vous le disiez, c'était... L'idée, c'était au départ plutôt une biscotte, un morceau de pain grillé. Et puis il l'a changé. À un moment donné, c'était sa servante qui venait lui apporter. Et puis finalement, c'est devenu sa maman. Mais cette petite Madeleine, qui était une espèce aussi d'eucharistie, de transmission un peu magique, c'est aussi quelque chose de très voluptueux, qui a une forme... Là aussi, on a l'impression que ça a été moulé, pas forcément dans quelque chose de neutre. Ça a été moulé dans une coquille Saint-Jacques, dans une huître, dans une... Il parle de valve, de vulve. Enfin, tout ça est toujours très connoté pour relier l'appétit et le désir charnel. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Et puis, Madeleine, c'est peut-être aussi Marie-Madeleine. Enfin, alors là, j'extrapole.
Ah mais, oui, carrément, oui.
Il y a quelque chose de ce qu'on sait, c'est que Proust, lui, ce qu'il aimait, c'était manger des croissants avec du café au lait très sucré. Mmh. Et ça, sur un plan gastronomique, c'était son sujet de prédilection. Et comme il passait beaucoup de temps au lit, c'est une bonne façon de s'occuper. Moi, j'aime beaucoup les croissants aussi, je dois dire. J'aime pas beaucoup le café au lait, je préfère le café tout court. Mais c'est vrai qu'il y avait une gourmandise. Et c'est lié aussi, on parlait d'Eucharistie, c'est lié aussi au baiser nocturne qu'il réclamait à sa mère. Guillaume Gallienne avait fait une lecture absolument magnifique, justement, de ce baiser nocturne quand sa mère vient l'embrasser et lui glisser un baiser avec un bout de langue, comme ça, comme une espèce d'hostie.
C'est ça, c'est vrai que le thème de la famille est très, très présent dans l'œuvre de Proust. D'ailleurs, la table familiale, elle est à la fois ritualisée, elle est parfois oppressive, on apprend tout, l'attente, la dépendance, la frustration, c'est le lieu central, finalement, de nos existences.
Oui, mais c'est vrai chez nous aussi.
Bien sûr, exactement.
C'est vrai dans nos cultures où il se passe des choses à table. Ouais. Je ne parle pas des pays comme les États-Unis où les gens mangent debout devant leur réfrigérateur. Ouais. Mais nous, on partage effectivement beaucoup de choses. Et des enjeux familiaux, des engueulades au cinéma, dans les films de Claude Sautet ou de Claude Chabrol.
Ouais, extra.
On sent qu'il se passe vraiment des choses à table.
Le cinéma, c'est d'ailleurs pas mal emparé du sujet de la nourriture. On pense à ce film incroyable qui fut Scandale avec Noiret, les plus grands, où c'est l'orgie de bouffe et de sexe pour mourir, in fine.
C'est la grande bouffe. Moi, c'est pas évidemment mon avis, on s'en fout, mais moi, c'est un film qui m'a jamais transporté.
Ah ouais.
Parce que, justement, on en a parlé en tout début d'émission, Alain, c'est on verse dans la gloutonnerie, on s'empiffre, et moi, je suis malade à leur place quand je. Honnêtement, un peu moins quand je vois Andrea Ferréol, je le reconnais, là, je me sens plutôt en bonne santé, mais voilà.
Mais c'est le but du jeu.
Oui, bien sûr.
Et là, on avait demandé, alors là j'étais, je faisais l'émission encore avec mon ami France Oberkampf, et Bruno Verjus qui est devenu un immense chef.
Oui,
formidable.
Et qui a été
déclenché, alors sa mission de restaurateur a été déclenchée dans cette émission qu'on a faite.
Incroyable.
Avec Philippe Sard sur la grande bouffe et où Philippe, avec sa voix Ancestour, un peu, qui parlait comme ça. il racontait l'histoire, les prémices de cette grande bouffe, d'après un déjeuner à Paris. Il racontait ce déjeuner où il y avait Tavernier, qui était l'attaché de presse de Marco Ferreri, Ugo Tognazzi, qui était un immense cuisinier. Et Marco a dit à Philippe Sard, va chercher un grand morceau de parmesan sans la croûte. Ugo va nous faire des pâtes. Et puis après, ils ont fait pâtes, pute, voilà. Mais c'était... Et ça a donné ce film.
Oui.
Incroyable. Alors, dans cet ouvrage, Alain Kruger, le temps passe à une vitesse folle en votre compagnie. Vous évoquez évidemment tous ces contemporains, les grands chefs, la beauté du geste. Puis on passe tout d'un coup aux mères lyonnaises. C'est tout à fait passionnant. Mais on va écouter d'abord un petit extrait pour la suite.
Et pourquoi vous appelez ça la malbouffe? Vous n'avez pas le droit. Mais vous avez... Mais on le dit, mais vous avez tort. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Savez-vous ce que c'est qu'un hamburger? Pourquoi ça existe, le hamburger? Parce que c'est un sous-produit du travail des femmes. Ah! Je vous rappelle que dans un bœuf, 60% du bœuf, ce sont des morceaux qu'il faut cuire pendant 3 heures ou pendant 4 heures, sinon ils sont durs comme cette table. À partir du moment où les femmes travaillent, elles n'ont plus les 3 heures de temps pour cuire cette viande. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez l'acheter? Sûrement pas. Vous allez la hacher.
Ah, c'est pas de la fable de La
Jacques
Fontaine.
Borel.
Mais
Jacques
dit,
Borel. Est-ce qu'il est toujours vivant?
Borel est
toujours vivant. Oui. Il doit avoir 100 ans.
Oui, c'est, oui.
Et il n'a pas encore 100 ans, mais d'accord. Il en a 98.
Voilà.
Il va en avoir 98 et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps puisque je lui ai fait relire le texte que j'avais fait pour adapter cet entretien. Il a toujours cette énergie absolument magnifique.
On va quand même
inventeur.
Resituer ce personnage. On dit que c'est lui qui aurait inspiré le personnage de Tricatel dans L'aile ou la cuisse. Cet homme va fondamentalement changer notre rapport à la nourriture sous nos latitudes. C'est lui qui va importer les concepts de nourriture rapide, facilement mangeable, notamment sur les restaurants d'autoroute. Le fast-food, il va l'importer en France avec les Wimpy, c'est ça, hein, il me semble.
Absolument. Oui, mais il va finir par se casser la figure.
Oui, exactement. Mais cet homme-là, il a été le déclencheur de cette nouvelle vague du fast-food, on peut le dire. Bon, il n'aimait pas l'entendre, mais c'était quand même...
Non, fast-food, oui. Ouais. Il était allé voir les grands tauliers du fast-food aux États-Unis, à Chicago et... Et il avait vu Ray Kroc, il avait vu tous ces personnages qui sont...
Ray Kroc, le fondateur, enfin le deuxième fondateur de McDonald's.
Le développeur de, voilà. Développeur de McDonald's.
La matière grise, oui.
Et ce que dit Jacques Borel, c'est que McDonald's, c'est le premier restaurateur au monde. Et c'est le premier restaurateur, par exemple, en France. Je n'ai pas les chiffres en Belgique, mais en France, c'est le premier restaurateur. Et il dit, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire, parce qu'il le dit toujours aujourd'hui, et c'est vrai qu'on revient au mijoté, c'est que à l'époque où les mamans étaient à la maison et pouvaient préparer pendant des heures, surveiller leur cocotte avec la viande en train de mijoter, on pouvait manger de la viande très dure, de la macreuse, des choses comme ça. Après plusieurs heures de cuisson, ça devient absolument délicieux, surtout si effectivement on a gardé tout l'aspect gélatineux qui va nous nourrir et rendre les choses confites.
C'est ça, mais le changement de société, les femmes débarquant désormais dans la sphère professionnelle et dans le travail, a changé la donne. Et il l'a très bien compris, même si ça peut choquer,
absolument.
Même si son discours peut choquer en disant « les femmes travaillent donc maintenant, on fait du burger », mais il n'a pas
mais
tort.
Mais ce n'était pas un reproche,
non,
c'était un constat.
Non, il n'a pas tort, c'est le constat, il est là, il s'est adapté. Il a eu le nez fin finalement, pas pour le meilleur.
Non, mais c'était un visionnaire, c'est un homme qui... C'est lui qui a inventé avec sa femme, ils ont inventé le ticket restaurant.
Ça, c'est vraiment probablement la chose la plus importante qu'il ait inventée. Et il y a quand même quelque chose qui est intéressant chez Tricatel, chez Jacques Borel, c'est qu'il savait aussi s'inspirer des autres. Parce que finalement, ces restaurants, ils étaient très inspirés des excellents restaurants italiens des années 60
absolument.
Et 70.
Hein, absolument.
Les et autogrilles. Oui, et qui sont bien meilleurs que. Même les autogrilles, ils sont mieux en Italie qu'en France. Et je sais pas pourquoi. C'est vrai. On s'est adapté.
Parce que le café est meilleur.
Ouais,
parce que
voilà, tout est mieux.
Bah parce que c'est italien.
Ouais, hein, c'était mieux. Les pavés. Si, et puis il y avait les pavési, voilà, en Italie. Et puis il a importé Wimpy. Alors il n'a pas eu de chance. Moi, je me souviens, j'étais très petit, mais les Wimpy, c'était bon. C'était plutôt meilleur qu'un McDo. Et il y a eu un ratage au niveau de la franchise McDo. Ça s'est mal passé. Mais finalement.
Ah non, ça n'a rien à voir. Ce sont deux histoires qui n'ont
deux
rien à voir.
Deux histoires qui n'ont rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'il est passé à côté de la franchise McDonald's où il y a eu. Voilà, j'ai pas le souvenir.
Mais en tout cas, ça a périclité.
Voilà. Ça a périclité, mais pas forcément par mauvaise vision.
Son idée pour les Wimpy, c'était que justement, au lieu de vous servir un plat. Au lieu qu'on aille au comptoir pour aller chercher, on était à table et on venait vous servir votre hamburger à la cuisson que vous aviez choisie. Oui. Donc vous pouviez, vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut pas demander un hamburger rare.
Non.
Le saignant est illégal. It's against the law. C'est un drôle de pays.
Oui.
Mais
oui, on peut le dire.
Ça n'arrange pas. Ouais, bref.
Bon, en tous les cas, c'est vrai que cet ouvrage Alain Kruger est absolument passionnant et nous fait vraiment voyager dans tous les horizons qui touchent au ventre, à la gourmandise et à la culture culinaire. Moi, j'aime bien ce mot, il n'y a rien à faire. Ça s'appelle « On ne parle pas la bouche pleine ». Alain, est-ce que vous restez avec nous encore parce qu'on a un petit cadeau pour vous?
Alors, oui, mais j'aimerais juste vous rappeler aussi quelque chose de très important, c'est qu'on parle aussi de gastronomie et que Gaston Lagaffe, qui est un de mes héros de vie...
Quel cuisinier
Mais t'es un cuisinier exceptionnel. D'ailleurs, on donne la recette de la morue aux fraises à
finalement.
La chantilly avec la mayonnaise au capre flambée au pastis. Donc vraiment, je vous recommande cette lecture parce que Gaston Lagaffe est un maître absolu.
Exactement. Et c'est vrai que Franquin a beaucoup croqué la nourriture à travers, au fil de ses pages. Et bon, c'est une manière aussi d'en parler, de cette nourriture, la BD. Michel Verlinden vient de nous rejoindre. Oui. Bonjour Michel.
Bonjour
Sophie. Vous avez bu les paroles d'Alain.
Oui.
Passionnant.
Don Quichotte, Proust et
incroyable,
tout ça.
Incroyable.
Ça ne peut que me toucher.
Aujourd'hui, Michel, au menu du jour.
Trois adresses de chefs qui ont moins de 30 ans. Et je trouvais que c'était important de rendre hommage à cette génération qu'on appelle parfois Z et qu'on taquine un peu parfois. Mais qui a de solides talents en cuisine.
On en parle juste après cette petite pause. Alain, vous restez avec nous.
11h midi. Bientôt à table sur la première
avec Sophie Mounce.